Vas-y Jean-Pierre, c'est à toi.
Camarades et amis, la France va mieux. C'est ce qu'osait prétendre François Hollande en avril dernier pour le bilan de ses 4 ans de sa présidence. Mais de quelle France parle-t-il ? Si François Hollande parle de la France des grandes familles bourgeoises, comme les Bettencourt, les Muliez, les Arnaud, les Peugeot et compagnie, qui ont vu leur fortune personnelle augmenter de 25% l'année dernière, il a raison. Ça va mieux pour elle. S'il parle des actionnaires des entreprises les plus importantes du pays, celles du CAC 40, qui se sont partagées plus de 40 milliards de dividendes en 2015, le record d'Europe, paraît-il, il a aussi raison. Ça va mieux pour eux. C'est certain que pour les milliardaires, les propriétaires de grandes entreprises, les privilégiés, les années Hollande resteront un bon cru, un très bon souvenir. Mais s'il parle des dizaines de millions de femmes et d'hommes qui n'ont que leur salaire, leur allocation, leur pension ou même plus rien du tout pour vivre, au contraire, c'est devenu pire. Pour les millions de travailleurs qui se sont fait licencier au nom du dernier mot à la mode, la compétitivité, ceux qui depuis des années croupissent au chômage, pour le million de chômeurs supplémentaires des années Hollande, pour les millions de jeunes travailleurs qui enchaînent les missions d'intérim, les CDD, les contrats d'alternance sous-payés, qui se font régulièrement voler sur leur paye, qui ne peuvent se permettre le moindre retard, la moindre maladie, sous peine d'être grillés. Pour les infirmières des hôpitaux publics, constamment sous-effectifs, et à qui le gouvernement veut supprimer des RTT au nom, là aussi, de la rentabilité. Pour les dizaines de millions de travailleurs qui sont directement à la base du fonctionnement de la société, de la fabrication de toutes les richesses, à qui le patronat impose de travailler toujours plus vite, toujours plus durement, avec des salaires de plus en plus faibles, alors que les prix et les impôts augmentent constamment. Oui, après 4 ans de présidence Hollande, la vie est devenue plus dure, beaucoup plus dure, elle est pire qu'avant. La politique du grand patronat, à laquelle Hollande et le gouvernement socialiste ont tant contribué, a eu des conséquences dramatiques pour les classes populaires. C'est pour ça que Hollande parle de la France. Il sait qu'il faut tenter de gommer les différences de classe sociale, de cacher que les Muliez et les Bettencourt ont des intérêts fondamentalement opposés au reste de la population, d'escamoter la différence entre les riches et les pauvres, entre les actionnaires et les travailleurs. Et il n'est pas le seul. Tous les autres responsables politiques, ainsi qu'une véritable armée composée de journalistes, d'intellectuels, d'experts en tout genre, défendent l'idée jour après jour que non seulement nous aurions tous les mêmes intérêts, mais que ce qui est bon pour les entreprises, entendez par là ce qui est bon pour le patronat, est bon pour toute la société. Dans la campagne électorale qui s'ouvre, les Hollande, Sarkozy, Le Pen et même Mélenchon vont nous dire la même chose. Ils vont nous parler de la France, de la patrie, de la nation. Ils vont nous vanter leur recette miracle pour, comme ils disent, sortir la France de la crise. Mais derrière ce vocabulaire, ce qu'ils défendent en réalité, ce sont les intérêts du grand patronat, les intérêts des riches. Face à eux, il est essentiel que ceux qui n'ont que leur salaire, leur allocation ou leur pension pour vivre fassent entendre leurs intérêts. Il est vital d'affirmer que les dizaines de millions de femmes et d'hommes qui font tourner par leur travail l'ensemble de la société ont des intérêts politiques et économiques à défendre. Oui, il s'agit dans ces élections de faire entendre un camp, le camp des travailleurs. Et ce camp des travailleurs, c'est nous tous qui n'avons pas de capitaux pour approprier le fruit du travail des autres, qui n'avons que notre salaire pour vivre. Nous tous, en activité ou au chômage, en passant de l'un à l'autre au bon vouloir de la classe capitaliste qui dispose de notre vie. Nous tous, y compris les anciens, les retraités, usés par des années d'esclavage salarial, à qui leur pension ne permet souvent que de survivre, eh bien, en faire entendre ce camp, le camp des travailleurs, c'est tout le sens de la candidature de notre camarade Nathalie Arthaud. Et à tous ceux qui voudraient nous faire crier avec eux la fierté d'être français, eh bien nous, nous répondons que nous sommes fiers d'être des travailleurs, fiers d'appartenir à ce camp. Face à tous ceux qui défendent l'identité française, eh bien nous, nous défendons l'identité ouvrière. À tous ceux qui défendent l'idée que nos ancêtres sont les Gaulois, eh bien nous, nous répondons que nos ancêtres, les nôtres, ce sont les esclaves qui se sont soulevés avec Spartacus, les serfs, les ouvriers, ce sont les opprimés du monde entier. La vérité, c'est que la société est bel et bien divisée en deux camps aux intérêts radicalement opposés. Dans ces élections, faire entendre le camp des travailleurs sera la seule façon de s'opposer clairement, politiquement, à tous les défenseurs des intérêts patronaux, qu'ils soient de gauche comme de droite. Ce sera aussi l'occasion de faire en sorte que le plus grand nombre possible de travailleurs en soient conscients. Être conscient d'appartenir à un camp, c'est être conscient d'être des millions à avoir les mêmes intérêts, que l'on soit un travailleur actif ou un travailleur privé d'emploi ou un travailleur retraité. C'est se souder entre nous au-delà de nos différences. C'est faire bloc en ayant conscience que l'on soit français, immigré ou d'origine immigrée, que l'on soit femme de ménage ou ingénieur, que l'on soit en intérim, chômeur ou en CDI, que l'on travaille dans les services publics ou dans le privé, que l'on soit pilote d'avion ou ouvrier sur chaîne, oui, nous avons tous les mêmes intérêts politiques et économiques à défendre face à nos patrons et aux gouvernements qui les servent. En un mot, c'est avoir conscience d'appartenir à la classe ouvrière. Sans cette conscience, rien ne sera sérieusement possible pour nous, les travailleurs. Avoir conscience d'appartenir à un camp n'a de sens que si l'on a conscience qu'il s'oppose à un autre camp, avec des intérêts diamétralement opposés, celui du patronat et de la bourgeoisie. C'est avoir conscience qu'entre ces deux camps, il n'y a pas d'entente possible, mais seulement des rapports de force. Nous avons vécu avant l'été une mobilisation de 4 mois contre la loi travail. Cette mobilisation a fait suite à 4 longues années d'attaques incessantes du gouvernement contre le monde du travail, sans que les directions des confédérations syndicales ne les dénoncent et ne les combattent sérieusement. Depuis le début de la présidence Hollande, elles n'ont jamais expliqué aux travailleurs que non seulement on ne pouvait pas compter sur ce gouvernement, mais qu'il serait un véritable adversaire. Rien n'a été fait pour armer moralement les travailleurs et les préparer à combattre le gouvernement. Et le gouvernement socialiste en a profité pour dérouler sa feuille de route, qui consistait à satisfaire les revendications du patronat, de l'ANI à la loi Rebsamen, du pacte de responsabilité à la loi Macron. Et peu importe si au fil des mois, la popularité du gouvernement et de Hollande dégringolait, le personnel politique, de gauche comme de droite, une fois au pouvoir, n'est pas là pour être populaire, mais pour être efficace et remplir sa mission, assurer le patronat qu'il sera servi et bien servi. Dans ce régime capitaliste, c'est à cela et à cela seulement que servent les dirigeants élus. Ils sont là pour être de bons serviteurs, avec une durée de vie politique plus ou moins limitée, car le patronat n'a pas beaucoup d'égards envers ses larbins. Une fois qu'ils sont en place, ils ont 5 ans pour faire le travail et leur sort ensuite n'intéresse aucunement leur donneur d'ordre. Quand un serviteur du patronat fait bien son travail, comme l'a fait Hollande, il a toutes les chances de se retrouver grillé pour longtemps, détesté par ceux qui l'ont élu. Mais être grillé, c'est précisément la fonction d'un fusible. Et ces hommes et ces femmes politiques ne sont finalement que ça, des fusibles que le patronat utilise, grille et remplace. Les capitalistes savent très bien que dans les écuries de la gauche comme de la droite, tous les chevaux courent pour eux. Dès lors, pour ceux qui sont trop déconsidérés, soit ils se mettent au vert, se font oublier, et 5 ans plus tard reviennent avec un programme rempli de nouvelles promesses, ou pour d'autres, ils se trouvent un nouveau job dans le privé ou dans les niches douillettes de l'État, comme le Conseil constitutionnel. Mais au-delà, le personnel gouvernemental sert aussi à protéger le patronat en concentrant la contestation sur lui. Et c'est ce qui s'est passé lors de la lutte contre la loi travail. Durant toute la mobilisation, le patronat est resté bien à l'abri du gouvernement qui lui servait de rempart. Alors, si des illusions sont tombées sur Hollande et Valls, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Il faut que les travailleurs perdent toute illusion, dans la gauche, la droite et évidemment dans l'extrême droite. Ils doivent prendre conscience que le changement ne peut pas arriver à travers les élections, mais qu'il ne viendra que des mobilisations, des luttes, lorsque les travailleurs feront usage de leurs armes de classe, la grève, les manifestations et les occupations d'usines. Il aura fallu donc attendre 4 années pour voir la CGT et FO accepter de mener la lutte contre le gouvernement et assister à un éveil d'une fraction des travailleurs. Eh bien, il faut espérer que cette lutte laissera des traces dans les têtes et que ceux qui ont participé aux manifestations et aux grèves aient retrouvé confiance dans leur force collective et qu'ils trouveront le moyen d'entraîner la prochaine fois ceux qui ont hésité. Il faut espérer que les travailleurs se rappelleront à l'avenir que quel que soit le gouvernement qui gère les affaires de la bourgeoisie, c'est toujours nous, les travailleurs, qui faisons tout tourner et que si nous le décidons, nous avons aussi le pouvoir d'imposer nos volontés. Le mouvement contre la loi travail n'a pas été assez puissant pour faire reculer le gouvernement, certes. Mais une bataille perdue n'est pas la fin de la guerre, et la guerre, elle continue. Les patrons, eux, le savent très bien. Quand ils perdent une bataille, quand la lutte de classe menée par les travailleurs les oblige à reculer temporairement, ils ne renoncent pas. Ils ne se disent jamais que tout est fini. Ils s'accommodent de leur défaite le temps qu'il faut, mais tôt ou tard, ils reviennent toujours à l'attaque pour regagner le terrain perdu. Au fil des années, depuis les débuts du mouvement ouvrier, le patronat a dû céder sur bien des choses, sur le temps de travail, sur le travail des enfants, l'existence des syndicats, les conventions collectives, les congés payés. Mais regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le temps de travail, les congés payés sont attaqués de toutes parts dans toutes les entreprises. Les militants ouvriers se voient mettre chaque jour plus de bâtons dans les roues quand ils ne sont pas traînés devant les tribunaux. Quant aux conventions collectives, l'application de la loi travail signerait en quelque sorte leur arrêt de mort. Pour le patronat, rien n'est jamais perdu définitivement. Tout ce qu'il a lâché, il espère le reprendre quand le climat lui sera plus favorable. Eh bien, sur ça, au moins, nous pouvons nous inspirer de nos ennemis, avoir la même ténacité et surtout, la même conscience de ses intérêts de classe et être convaincus que la lutte sur la loi travail n'a été que la première manche, qu'un échauffement avant une lutte bien plus ample et bien plus profonde qui se donnera les moyens d'envoyer à la poubelle non seulement la loi El Khomri, mais toutes les autres lois pourries que les gouvernements nous imposent depuis des décennies. Il est juste et légitime, évidemment, de combattre ces lois, mais cela ne doit pas nous faire perdre de vue que les lois ne sont, au fond, que la surface des choses. Les lois ne sont que l'expression juridique des rapports de force à un moment entre le patronat et la classe ouvrière. Ces lois ne sont que la généralisation et la légalisation des pratiques quotidiennes du patronat, qui veut simplement se mettre à l'abri en faisant inscrire dans la loi ce qu'il fait partout. Les accords d'entreprise, il y a longtemps que ça existe. Il n'y a pas eu besoin d'attendre la loi El Khomri pour voir à Continental ou à la Smart les patrons demander aux travailleurs de choisir entre la baisse des salaires et la hausse du temps de travail. Les patrons savent très bien que les conventions collectives peuvent donner un sentiment d'unité aux travailleurs d'une même branche. Et ils ont toujours voulu briser cela, avec des accords entreprise par entreprise qui isolent les travailleurs les uns des autres. Alors, il n'y a bien sûr aucune raison de ne pas se battre de toutes ses forces contre des reculs législatifs. Mais au-delà de ces mobilisations, nous devons avoir conscience que c'est tous les jours, sur nos lieux de travail, que le patronat mène la guerre aux travailleurs et que les travailleurs doivent se préparer à riposter. Le capitalisme, ce système basé sur l'exploitation de l'homme par l'homme, ce n'est pas au gouvernement et encore moins au Parlement qu'il se décide ni qu'il se dirige. Les gouvernements, les parlementaires, ils ne sont là que pour mettre de l'huile dans les rouages, faciliter le travail au grand patronat. Mais derrière ce paravent démocratique, il y a l'appareil d'État de la bourgeoisie, son armada de hauts fonctionnaires, non élus, ses CRS, sa police, son armée, sa justice, ses prisons. Il est là pour préserver ce système de domination sur l'ensemble de la société, y compris, si besoin, par la violence. Tous les travailleurs vivent au quotidien la guerre de classe menée par le patronat contre le monde du travail. Ce sont les ouvriers physiquement détruits par les cadences, parfois reconnus handicapés à 35 ans. Ce sont les employés transformés en machines à répondre au téléphone sur les plateaux téléphoniques, en machines à traiter des dossiers toujours plus vite. Tout ce que la société compte de travailleurs est touché, à un degré ou à un autre, par cette guerre menée au nom du profit. Y compris dans la fonction publique, où le personnel soignant des hôpitaux, les enseignants, les postiers, les cheminots voient leurs conditions de travail se dégrader jour après jour parce que l'État doit économiser sans cesse plus d'argent pour le jeter dans les caisses du patronat. Et tout cela pourquoi ? Tout cela parce que depuis 40 ans, le capitalisme connaît une crise économique d'une longueur jamais vue auparavant, parce que rien ni personne ne peut en venir à bout et que malgré tout, dans cette situation où le marché et la croissance sont atones, il faut, coûte que coûte, maintenir les taux de profit des capitalistes. Bien sûr, tout au long de ces 40 années, la bourgeoisie a trouvé des moyens de substitution pour bâtir ou consolider des fortunes colossales, en se tournant notamment vers la finance. Mais il ne faut pas pour autant oublier un aspect fondamental. C'est que si les opérations de spéculation financière permettent à quelques bourgeois de gagner des millions ou des milliards en une nuit, elles ne créent pas le moindre centime de richesse à l'échelle de la société. Les richesses et les profits, c'est dans les entreprises qu'ils se créent, là où des bataillons de travailleurs les produisent. Cela s'appelle l'exploitation. Et c'est quelque chose qui ne changera jamais tant que le monde sera capitaliste. Les travailleurs reçoivent, sous forme de salaire, bien moins de richesses qu'ils n'en produisent, et le reste est récupéré, volé par les patrons. Et depuis que l'exploitation capitaliste existe, les patrons essayent toujours de trouver des moyens pour l'aggraver, c'est-à-dire pour augmenter la part qu'ils volent aux travailleurs. Ce combat, parce que la crise se prolonge et s'approfondit, est une question de survie pour les capitalistes. Et c'est la raison pour laquelle ils cherchent, trouvent et imposent tant de moyens pour aggraver l'exploitation. De ce point de vue, l'exemple du groupe PSA où je travaille est édifiant. Vous avez tous entendu que ce groupe, qui était prétendument au bord de la faillite il y a 4 ans, fait maintenant des bénéfices énormes. 1,2 milliard d'euros rien que sur les 6 premiers mois de l'année 2016. Et les journalistes économiques et les politiciens se gargarisent sur la nouvelle stratégie du groupe, la nouvelle vision de ses dirigeants. Ça, c'est du baratin. La vérité, c'est que c'est en supprimant 17 000 emplois en 4 ans et en arrivant à faire produire à ceux qui restent plus de voitures qu'avant que ces bénéfices ont été réalisés. Un chiffre. Un chiffre. En 2010, le groupe PSA dépensait 6,3 milliards d'euros pour payer les salaires. En 2005, la masse salariale était de 5,2 milliards, soit 1 milliard d'euros en moins. Pour obtenir ce résultat, au-delà de la fermeture de PSA Aulnay et des 17 000 emplois supprimés sur le groupe, Ce sont des salaires bloqués depuis mars 2012. Ce sont des primes qui ont été supprimées ou rabotées, les heures supplémentaires obligatoires qui ne sont plus payées. Récemment, le PDG de PSA, Carlos Tavares, lui qui s'est tranquillement augmenté son salaire en 2015 de 100%, a décidé de s'attaquer au salaire des travailleurs d'équipe de nuit, trop coûteux pour lui. Il voudrait imposer des contrats à temps partiel. Le travailleur de nuit serait payé sur une base de 28h30 par semaine, mais travaillerait 35 heures. La différence serait soldée à la fin de l'année. Entre-temps, chaque mois, les salariés subiraient une perte sèche et brutale de près de 400 euros. Non seulement la rémunération globale des salariés a baissé, mais le temps de travail, le temps passé sur la chaîne augmente. À PSA, le patron a inventé la GJP, la garantie journalière de production. Le raisonnement patronal est extrêmement simple. Il nous embauche pour faire 364 voitures en 7 heures. Il lui faut ces 364 voitures, quitte à nous faire travailler plus longtemps dans la journée. La moindre panne amène un rattrapage minimum de 10 minutes. Ces 10 minutes sont d'abord prises sur les 31 minutes de la pause repas. Imaginez 5 secondes. Il ne vous reste que 21 minutes pour aller vous laver les mains, aller aux toilettes, faire chauffer votre gamelle au micro-ondes, l'avaler au bord de la chaîne et à la sonnerie, courir pour reprendre votre poste. Si les pannes sont plus importantes, en plus des 10 minutes prises sur la pause repas, ce sont 10, 20, 30 minutes supplémentaires à la fin de l'équipe, en étant évidemment prévenu qu'au cours de la journée, que vous serez libéré 30 minutes plus tard. Quant à l'intensité du travail, elle a explosé. Dans toutes les usines, le patron a bouleversé l'approvisionnement des pièces sur les bords de chaîne en réduisant à l'extrême la taille du conditionnement pour les rapprocher au plus près de l'ouvrier de chaîne. Car les quelques pas que faisait l'ouvrier les mains vides pour aller prendre les pièces dans le bac étaient considérés par le patron comme du temps perdu. Pour l'ouvrier, c'était ce que les médecins du travail appelaient les micro-pauses, où pendant quelques secondes, les muscles, les tendons, les articulations des poignets, des coudes et des épaules se reposaient. Désormais, les pièces sont livrées à quelques centimètres de l'ouvrier, pratiquement dans ses mains. Ce temps gagné à chaque poste, mis bout à bout, a eu comme conséquence la suppression de dizaines de postes le long de la chaîne. C'est avec ces méthodes que les patrons, dans toutes les usines, obtiennent une production équivalente, voire supérieure, avec moins de travailleurs. Au final, ce sont des millions d'euros qui sortent directement des muscles de chaque ouvrier. Oui, quand on dit que l'ouvrier fabrique le profit avec sa sueur et ses muscles, ce n'est pas une formule, c'est la réalité. Et je cite des exemples à PSA que je connais bien, mais mes camarades de Toyota et de Renault qui sont à cette tribune pourraient raconter exactement la même chose. Comme à Renault Maubeuge, dont un directeur se vantait dernièrement dans la presse, je cite, de réussir à produire 100 voitures par ouvrier et par an contre une moyenne nationale de 60. C'est comme ça que les patrons gagnent leur argent. Si les politiciens bourgeois écrivent et votent des lois anti-ouvrières, c'est pour aller justement dans ce sens. C'est parce qu'ils ne décident pas de la politique du patronat, ils l'exécutent. Les lois votées ne décident pas des conditions de l'exploitation, elles se contentent de les codifier. Mais quelles que soient les lois et les politiciens qui passent, l'exploitation capitaliste continue sur les lieux de travail, dans les entreprises, et tout ce qui se passe dans le reste de la société dépend fondamentalement du rapport de force entre les travailleurs et les patrons. Avoir tout ça en tête, même dans une période de campagne électorale, peut-être surtout dans une période de campagne électorale, est indispensable. Parce que cela permet de comprendre et de savoir que le prochain pantin qui sera élu à l'Élysée ne changera pas notre sort à nous, les travailleurs. Avant d'arriver à l'Élysée, il aura déjà été prendre sa feuille de route auprès du patronat pour l'appliquer servilement. Car ce ne sont pas les élections qui permettront de changer la situation. C'est seulement l'intervention directe des travailleurs à l'endroit même où se joue l'exploitation, c'est-à-dire dans les entreprises. Alors, nous dirons pendant ces élections, comme nous le disons tous les jours de l'année, que les reculs que nous subissons depuis des décennies n'affaiblissent en rien la force fondamentale qui est celle de la classe ouvrière. Sans les travailleurs, la société s'effondre. Sans les travailleurs, rien ne peut fonctionner. Si le patronat est fort aujourd'hui, ce n'est en aucun cas parce que la classe ouvrière serait devenue plus faible. Non, c'est parce qu'il lui manque la conscience de ses intérêts et la confiance dans sa propre force. Eh bien, camarades, nous serons présents dans cette élection à travers la candidature de notre camarade Nathalie Arthaud pour marteler cette idée-là. Ce que nous résumons par le slogan « Faire entendre le camp des travailleurs », ça veut dire tout ça. Alors pendant des mois, pendant tous ces mois qui viennent, j'espère que nous serons de plus en plus nombreux à être convaincus et à convaincre autour de nous que voter pour Nathalie Arthaud, c'est dire qu'on ne croit plus dans les discours et les promesses des politiciens bourgeois. C'est dire qu'on n'attend plus que la résolution des problèmes se fasse par en haut, que l'on sait qu'aucun sauveur suprême ne va venir résoudre la crise et le chômage. C'est dire que l'on est convaincu qu'il faut s'en prendre aux fauteurs de crise, de misère et de chômage qui sont les grands patrons, la grande bourgeoisie, le capitalisme. Et c'est dire que l'on garde chevillé au corps cette confiance inébranlable dans la capacité des travailleurs à mener à l'avenir ce combat. Alors, bon courage à vous tous, à nous tous pour mener cette campagne. Vive le camp des travailleurs, vive le communisme !